Mon invité du jour prouve qu'un grave accident n'empêche pas de devenir un athlète de haut niveau et un champion, et que cécité et rapidité ne sont pas incompatibles. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Runs, apiculteur passionné par la course à pied, amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive, et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir en compte d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu moins de nutrition sportive, mais on va en parler quand même. Mais nous voulions vous faire découvrir Michel Mouch. Michel vient de rentrer dans la liste des athlètes de haut niveau. Il prépare les championnats du monde, les Jeux Olympiques, et pourtant en 2005, il s'est fait projeter contre un arbre par un bus. Les médecins lui disent alors que marcher sera une grosse victoire. Alors, être champion, c'était impensable. Et pourtant, il est désormais multiple champion de France, court au niveau international, sur des distances qui n'ont rien à voir apparemment l'une avec l'autre, du 1500 mètres au marathon. Le nerf optique de Michel a été irrémédiablement endommagé lors de l'accident et il perd la vue de plus en plus, ce qui lui a valu d'ailleurs des changements de catégorie à la dernière minute. Et justement, avec Michel, nous avons parlé de comment il gère son quotidien, son entraînement, des relations avec son guide, mais aussi avec son père pour l'entraînement. Comment son guide l'aide notamment sur les courses, sur les ravitaillements. On a parlé d'ailleurs des stratégies de ravitaillement, de comment lui, il gère ça, mais comment aussi, finalement, il arrive à prendre les ravitaillements dont il a besoin sur ces distances-là. Nous avons bien sûr parlé des relations avec son guide et de comment il a trouvé son guide et de comment ils évoluent ensemble. Nous avons aussi, bien sûr, parlé de sa nutrition au quotidien et bien entendu, comment il se prépare pour les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Allez, c'est parti. Bonjour Michel.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu ?
Ça va, merci. Et toi ?
Bah écoute, ça va très très bien. J'ai toujours beaucoup d'impatience à parler avec des athlètes. Et puis alors, surtout, juste avant de regarder, là, j'ai regardé ton palmarès, j'ai regardé où tu vas aller, ce que tu prépares. Et j'ai hâte en fait de savoir en fait comment tu fais tout ça. Alors ce que je te propose, c'est de te présenter en fait en quelques mots, et puis on rentrera un petit peu après dans le vif du sujet de comment tu fais tout ça.
Écoute, je m'appelle Munch Michel, je suis athlète de haut niveau,
ouais,
sur liste ministérielle depuis le 1er janvier, ce qui va être tout nouveau pour moi. Et franchement, c'est vraiment que du bonheur. Avant, j'étais vraiment surtout au niveau coureur, très très bon coureur au niveau national. Mmh. Et là, j'ai passé un cap. J'ai rejoint le collectif national, donc intégré les entraînements avec l'équipe de France et tout. Ça va être que du bonheur. Et puis voilà. Donc c'est vraiment depuis les premiers jours que je suis sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau. Mmh. Donc c'était une super nouvelle que j'attendais avec impatience, franchement.
Ouais. Ouais. J'imagine, ça change quoi d'ailleurs justement d'être sur la liste ministérielle maintenant ?
Ben, d'être sur la liste ministérielle, ça va m'apporter, je pense, beaucoup beaucoup plus de notoriété, beaucoup plus de regard, de vue des gens qui vont vous suivre. Je pense que les gros sponsors, ils regardent aussi beaucoup si t'es sportif de haut niveau et sur la liste ministérielle. Ça m'apporte la reconnaissance, surtout la reconnaissance du travail que j'ai fait depuis 6 années là maintenant. Mmh. Et puis des performances que j'ai obtenues, je pense, dues aux performances que j'ai obtenues dans l'année 2022.
Ouais.
En sachant parce que nous, depuis que moi je suis dans cette catégorie là, parce que moi je suis dans la catégorie des T11, des non-voyants, donc je cours avec un guide qui s'appelle Mathieu Leroux, qui est de région parisienne. Ça va m'apporter également, je pense, beaucoup plus parce que il faut savoir que les résultats que tu as vu, le palmarès que tu as vu, on le fait depuis 2 ans avec Mathieu sans s'entraîner ensemble pour l'instant.
Ouais.
Parce que lui, il est en région parisienne. Moi, je suis du côté de la Moselle. Donc, je pense qu'on a vraiment une grosse, grosse, grosse marge de progression et qu'on va pouvoir s'entraîner ensemble, justement avec le collectif France. Ça va nous apporter vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de marge de progression. Et puis on a hâte tous les deux.
Ouais, j'imagine.
Donc voilà.
Alors, c'est vrai, on en parlera justement du rôle du guide et comment on fait pour trouver un guide quand on court à cette vitesse. Parce qu'il y a un truc que tu n'as pas dit, c'est que tu n'as pas donné ton palmarès en fait.
Non, mon palmarès, justement, parce que le problème, c'est que le palmarès, c'est assez long, donc ça prend pas mal de temps. Oui, je suis cinq fois champion de France du 5000 mètres. Mmh. Je suis 4 fois champion de France du 10 km route. Je suis trois fois champion de France de marathon, trois fois champion de France de semi-marathon. Et dans ces résultats-là, il y a des records de France du 5000. Il y a des meilleures performances européennes du 5000, justement en 2022 avec Mathieu. Et on est rentré dans le top 10 mondial, donc ce qui est énorme, en sachant que c'était notre premier 5000. Et il y a aussi le cas. Ouais, c'était notre premier 5000 ensemble. C'était au mois de juin à Paris, à Charletti. C'était un meeting international. C'était vraiment que du bonheur. C'était énorme. On a battu le record de France de 49 secondes. Donc, c'était pas attendu. C'était inattendu, quoi, en fait. On voulait faire une bonne perf, mais là, je pense que c'est une des plus belles. Et je pense que c'est cette perf. Je pense que c'est que le DTN de la Fédération française d'handisport, ils ont regardé surtout sur cette perf-là pour prendre cette décision-là de qu'on intègre le collectif France et puis qu'il soit aujourd'hui sur liste ministérielle de sportifs de haut niveau. Donc je pense que je suis et d'ailleurs je remercie franchement le DTN de croire en moi, de me donner ma chance, parce que il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là, et je vais vraiment la saisir au maximum, au maximum. Ah oui, il y a aussi le 1500 mètres, où on est record de France du 1500 mètres. Donc, ce qui est très intéressant avec Mathieu, c'est qu'on est complet, quoi. On est complet du 1500 mètres jusqu'au marathon. Donc voilà.
Ce que j'allais dire,
Donc c'est
c'est-à-dire que c'est quand même, enfin, c'est pas commun parce que sur les années, il y a des athlètes qui passent comme ça de cette distance courte et qui allongent et qui arrivent à monter sur des grandes distances. Mais là, tu me parles de titres qui sont gagnés en même temps, quoi, à quelques mois
Ouais,
d'écart,
en
quoi.
fait, enfin, à quelques mois, voire quelques semaines, parce que comme là, au jour d'aujourd'hui, moi, on est à 15 jours des premières compétitions où je serai au championnat de France avec Mathieu, au championnat de France de 1500 mètres indoor en salle à Metz. Donc, on fera le 1500. Et en même temps, 15 jours après, on sera au championnat de France de semi-marathon qui est le 21 km, qui a rien à voir. Et toi qui es coureur, tu sais très bien que la préparation n'a rien à voir. Donc il faut vraiment, il faut préparer les deux. Donc il faut faire du court pour la vitesse pour le 1500, et après du long. Donc mais en long, je pense, en long, je veux dire en long, on fera la course, le semi-marathon, c'est la seule course en long qu'on fera, parce qu'après on va se focaliser sur le 1500 mètres et sur le 5000 mètres, avec les objectifs que on va en revenir après dessus, je pense.
Et
Donc voilà.
alors, fais-moi un peu rêver parce que c'est quoi ton temps sur 1500, sur 5000, sur marathon, c'est quoi les records là?
Ben, sur 1500, on a fait 4,35 à deux. Sur 5000, on a battu le record de France, on a fait 16,47. 16,47. 3 heures sur marathon. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'année dernière, on a fait comme cette année, on a fait le 1500 d'abord, et on a fait 15 jours après les championnats de France de semi-marathon, et on a fait une 15. Une 15 à 2, c'est. J'avais battu mon propre record personnel de 8 minutes. Donc ça, ouais. Donc franchement, là, ça c'est pareil. Je dois une grande, 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 grande partie à Mathieu. Ça c'est vraiment. Voilà, parce que j'ai trouvé le bon guide. Le guide, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Je te rassure. C'est la Fédé qui me l'a trouvé. Et parce que nous, on a un référent des guides à la Fédération française d'handisport qui nous a mis en relation. Et puis c'est comme ça qu'on a matché. Ça a vraiment très très bien matché ensemble. Et voilà, on s'est fait. Mathieu, c'est un mec qui est très costaud, qui est très costaud, qui est très costaud. Il faut savoir que c'est un super athlète. C'est un athlète qui a fait quand même au marathon de Séville seul. En solo, il a quand même fait 2,28, donc ça parle quand même pour son premier marathon. Ouais, c'est un mec qui vaut moins de 31 sur 10 000. Donc oui, il court, ça court déjà, il court déjà. Donc en sachant que lui, il faut de toute façon qu'il ait un cran au-dessus de moi, puisque lui, sa voix, c'est mes yeux. Donc il faut qu'il puisse parler encore quand il court. Parce que s'il peut pas parler, et Mathieu, ce qui est bien chez Mathieu, c'est que déjà d'une, je lui ai fait tout de suite à 100% confiance. Ça s'est passé autrement qu'avec les autres. Et de deux, c'est lui qui se cale à ma foulée, quoi. C'est ce qui est très intéressant et ce qui donne vraiment encore une. Parce que t'es pas censé savoir qu'on est attaché à un lien de 20 centimètres.
Ouais.
Moi je vois rien. Lui, voilà, le lien on peut pas le tirer. Il est tout petit le lien.
Ouais.
Donc il faut vraiment être synchro. Hein. Faut vraiment être synchro parce que si lui il a le bras derrière et moi j'ai le bras devant, ça peut pas aller. Donc
Mais ce que j'étais en train d'essayer de voir dans ma tête, 20 centimètres, je me dis mais franchement c'est vraiment court quoi.
Ah, c'est
Il
rien.
faut vraiment être le
C'est
bras
rien,
en
c'est
même
rien.
temps, tu peux pas avoir un bras
Ah ouais,
avant arrière.
faut pratiquer à peu de choses près. On a des fois, on le sent, hein. Des fois, on a en fait l'épaule des fois collée l'un contre l'autre. Pour te
D'accord.
dire, c'est rien, 20 centimètres, rien. Parce qu'en fait, c'est des liens, si tu veux, c'est des liens où moi, je mets mes deux doigts dedans, et lui, il met ses deux doigts dedans. Et le milieu, il est tout rigide, hein, ça se tire pas, hein.
D'accord.
C'est vraiment que 20 centimètres.
Ouais.
Et c'est vraiment ces liens-là qui sont réglementés pour tout ce qui est compétition nationale et internationale. Donc voilà.
C'est vraiment le rôle des guides et tu l'as dit hein, la fédération a trouvé un guide parce que j'ai vu un jour alors j'ai perdu le nom de l'athlète parce que moi je suis en Auvergne et on a un athlète local qui cherchait à un moment donné un guide parce que quand on court à ces vitesses-là pour trouver un guide et comme tu dis qu'il soit capable de te guider donc encore parler dire attention il peut se
Ah
passer telle ou telle chose c'est un sacré athlète et j'avais fait un épisode avec Thibaut Rigaudeau qui est en triathlon et bah son guide il
Ah,
est
Thibaut Rigaudeau, je le connais très bien.
Ouais, et son
Je
guide
le
en
connais
fait,
très
c'est
bien.
juste l'un des
Ouais.
meilleurs triathlètes pro du monde. C'est enfin,
Oui,
on
oui.
prend le top du top quoi, vraiment
Ouais, hein.
très très bon parce que
Après,
pour.
il faut savoir que Thibaut, il a un sacré niveau, hein. C'est un
Ouais.
mec qui est déjà allé aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Il vise comme moi les Jeux Paralympiques de Paris. Et il a un super niveau. Donc, je pense que pour lui, ils n'avaient pas trop le choix que de lui donner un mec comme ça. Parce que sinon, donc voilà. Donc, ouais, non, mais c'est vrai ce que tu dis. On juge pas l'importance que du guide pour nous, quoi, en fait. À savoir que Thibaut, il n'est pas encore dans la même catégorie que moi parce que lui, il était 12. Ça veut dire que lui, il voit quand même les lumières et les trucs comme ça. Moi, c'est rien. Donc, c'est encore différent, tu vois.
Tu vois rien du tout, du tout?
Donc, je vois quelques formes et tout, mais ça va être de pire en pire et dû à l'accident. Donc, un jour, il viendra un moment où je serai complètement dans le noir. Parce que je suis déjà en train de regarder je vais tous les mois, une fois par mois, on a une association près de chez nous, là, en fait, pour les cannes et puis pour les chiens guides. Pas pour
D'accord.
courir, hein,
Ouais.
pour chez moi,
Pour le quotidien.
en fait. Ouais, pour la vie de tous les jours, quoi. Donc, ouais. Et ça, c'est où ça se passe très bien. Et c'est vraiment aussi des personnes adorables. Ils m'accueillent toujours très, très, très bien. C'est pas le chien ou bien pas la canne qui coûte cher. C'est la formation. C'est les
Ouais.
formateurs qui sont pas donnés. Donc, à chaque fois, j'ai toute la journée à Metz. Je reste là-bas. Voilà, je marche avec la canne et tout, ce qui n'est pas évident, hein, au départ. Donc, faut savoir marcher avec une canne, c'est pas facile. Donc, j'ai une formatrice qui me forme très bien et ça se passe très bien pour l'instant. Donc, je suis content.
Et alors, tu vois, tu dis ton guide, il est à Paris. Toi, tu es en Moselle. Mais comment tu t'entraînes au quotidien, en fait? T'as quelqu'un qui t'aide à t'entraîner au quotidien?
Oui, moi, je suis toujours avec mon entraîneur et voilà. Moi, j'ai un entraîneur qui me suit tout le temps. Je peux pas courir seul. Je suis toujours avec lui. Mon père, il est souvent là parce que mon père, il me suit de près. Ben, de toute façon, toute ma famille. Donc, mon père, il est souvent avec. Mais il faut savoir que moi, j'ai au jour d'aujourd'hui un entraîneur qui est au top. C'est quand même un athlète qui était également international, mais en course en montagne. C'est un mec
D'accord.
qui valait 8,55 sur 3000 steeps. Donc oui, donc il sait de quoi il parle et il sait vraiment les programmes qu'il faut faire pour qu'on puisse performer ensemble. Donc ça fait 2 ans que je l'ai là et franchement, il y a vraiment une bonne cohésion et puis c'est plus mon entraîneur, c'est plus on va dire c'est mon entraîneur mais c'est comme un ami quoi. Il y a une osmose et une amitié qui s'est formée entre lui et moi, c'est top quoi, c'est top.
L'objectif, bien sûr, parce qu'on est à combien? 15 mois, 16 mois des Jeux Olympiques? Hein, c'est ça?
L'objectif majeur, c'est les Jeux, oui. En
Ouais.
2024, ce sera les Jeux. Mais pour nous, il faut savoir que nous, cette année, en 2023, on a ce qu'on appelle, qui est déjà pas mal aussi, qui est vraiment c'est pas aussi énorme que les Jeux paralympiques, mais c'est les championnats du monde.
Ouais.
Les championnats du monde qui sont au mois de juillet à Paris, en plus, chez nous, au
Ouais.
Stade Charletti. du 8 au 18, donc il faudra déjà aller chercher une bonne perf et se qualifier pour les championnats du monde. C'est pour ça que je t'avais dit avant, le seul long qu'on va faire, ce sera le semi, et après on va vraiment se focaliser que sur les 1500 et les 5000, sur tous les meetings, pour faire ces fameux minima et puis pour être sélectionné pour cet été. Pour cet été, bon, on va vraiment tout faire. Je pense que y a des choses à faire maintenant que, comme je t'ai dit avant, qu'on est dans le collectif France. On sera plus, je pense qu'on sera plus suivi par, de toute façon, on sera plus suivi par la Fédé et tout. Il y aura des entraînements qui vont se mettre en place. Il y aura des, je pense, des stages qui vont se mettre en place. Donc, ce sera vraiment que du bonheur. Comme je t'ai dit, on a vraiment une grosse marge de progression puisque on avait fait en 2022 la meilleure perf européenne et on est dans le top 10 mondial sans entraînement du tout,
Ouais.
pas du tout. Donc, voilà. Donc ce sera, on va dire, au mois de juillet, ce sera un avant-goût des Jeux paralympiques, parce qu'il y aura quand même 1700 athlètes, il y a 120 nations, il y aura 200 titres qui vont être décernés. Ouais, en plus, on vient d'apprendre que cette semaine, les championnats du monde paralympique, ils seront retransmis en intégralité sur l'équipe 21. Donc
D'accord.
c'est vraiment que c'est que du bonheur pour nous,
Ouais.
parce que franchement, parce que la retransmission, que ce soit les Jeux, que ce soit les championnats du monde, que ce soit les championnats d'Europe, tout ça, pour nous, ça nous fait aussi une notoriété un peu plus grande, parce qu'il faut vraiment mettre moi j'ai toujours ce fameux truc-là, qu'il faut vraiment mettre le sport handisport en avant, et puis parce que c'est pas moi, je parle pas que pour moi, hein, je parle en général. Il y a des athlètes qui font des trucs énormes, énormes, et c'est vraiment des grands champions et des grandes championnes. Donc, je pense qu'on a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de chance que là, au mois de juillet, l'intégralité, sera transmise sur l'équipe 21, en plus qu'il y a une chaîne qui sera même pas payante, que tout le monde pourra voir. Les gens qui pourront pas se déplacer à Paris, ils pourront voir, ils pourront nous voir. Donc, ça va être que du bonheur.
Mais on en avait parlé aussi avec Thibaut Rigaudeau de cette de l'importance de sensibiliser, de dire aussi à des jeunes, dans votre cas, qui sont malvoyants, mais de leur dire qu'ils peuvent faire du sport, qu'ils peuvent performer, qu'ils peuvent vivre des
Exactement.
sacrées aventures et tout. Parce que peut-être qu'il y en a qui s'en rendent pas compte, ou qui osent pas, ou qui ont peur, je sais pas.
Exactement, parce que tu sais, moi, on est toujours comme sportif, de toute façon comme sportif, mais maintenant encore plus comme sportif de haut niveau. On est sollicité par beaucoup de collèges, par beaucoup de lycées pour intervenir, pour justement pour montrer aux jeunes que malgré la difficulté, il faut jamais rien lâcher, et puis qu'on peut toujours rebondir dans la vie. Donc moi, quand je suis sollicité et quand mon emploi du temps me le permet, j'interviens souvent dans les écoles, dans les lycées et tout. Je raconte un peu mon histoire et pour bien leur montrer que si on veut bien quelque chose dans la vie et si on croit fort en ses rêves, ben ça se réalise. Tu sais, moi je suis sorti du coma. Je suis sorti du coma. Les médecins, ils donnaient pas cher, hein. Ils me disaient, si tu peux remarcher, ce sera une grande victoire pour moi. Alors, tu vois, en être là où j'en suis aujourd'hui, c'est vraiment que du bonheur. J'ai persisté, persisté, et j'avais toujours ce rêve. Quand j'ai repris le sport, vraiment, de juste faire du sport comme ça pour le plaisir, pour me dire, ben, je peux refaire quelque chose. Après, j'ai commencé à performer au niveau national. Et après, tu sais comment que c'est, hein, quand tu commences à performer au niveau national, tu vois toujours plus grand. Et moi, je suis quelqu'un qui est très ambitieux, très ambitieux. Je lâche jamais rien. Et je me suis toujours dit, un jour, je vais tout faire le maximum pour être, ben, en fait, comme on a dit avant, dans le collectif national, en équipe de France, et puis sur la liste des sportifs de haut niveau. Et la Fédération française d'handisport m'a donné cette chance-là, et je vais rien lâcher et surtout pas les décevoir. Donc c'est
Oui.
que du bonheur.
Puis l'objectif, c'est d'aller chercher une médaille. Enfin.
Ah ben bien sûr, oui, c'est déjà. Moi je suis toujours sur ce, que ce soit les championnats de France, que ce soit les championnats d'Europe, les mondes, les Jeux paralympiques, si tu te déplaces, faut te donner à fond, et l'objectif c'est vraiment d'aller chercher quelque chose, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, parce que faut toujours te dire, tout le travail que tu t'es donné, tous les heures, c'est des heures, c'est des heures, c'est des heures d'entraînement. C'est pas pour arriver là-bas et puis juste faire acte de présence, quoi, on va dire. vraiment donner le maximum, le maximum et ne rien regretter à la fin. Ça, c'est clair, net et précis. Moi, je suis toujours comme ça quand je participe à des compétitions, que ce soit nationaux ou internationaux. Je me dis toujours dans ma tête, tu vas là-bas, tu donnes le maximum, au moins, tu n'as rien à regretter. Tu verras bien à la fin, mais tu n'auras rien à regretter. Et c'était vraiment ce qui s'était passé à Charletti, où c'était un meeting international, où il y avait aussi, je crois, quand même 70 nations à peu près. Donc, avec Mathieu, on est allé là-bas. On n'avait pas de repère, hein. Comme je t'avais dit, c'était notre premier 5000 ensemble. On s'est dit, on va jouer la carte et on va jouer vraiment à fond. On était à fond et ça s'est vraiment très 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 bien passé. On était vraiment très contents de la course, en sachant que en plus à la fin c'était vraiment que du bonheur, puisque ils avaient en plus invité des collèges, des lycées, en fait des gamins qui dans les tribunes pour nous encourager, quoi. Et en fait, comme moi j'étais un des Français en finale dans le 5000, ils voyaient mon nom sur le dossard, donc ils criaient un peu comme des fous. Et à la fin, ouais, non, mais franchement, c'était magnifique. Et à la fin, on a signé des autographes aux jeunes qui étaient plein 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 de bonheur pendant 2 heures. Donc c'est vraiment, ouais, c'était top. Et c'est ça le partage, les moments conviviaux comme ça, les moments que tu pas tu, que tu que tu c'est ça le sport, en fait. C'est ça le sport et c'est ça que j'adore. Et ça me donne encore l'envie, encore plus, de me surpasser et de faire encore plus de résultats, ça c'est sûr.
Quand j'ai fait mes recherches un petit peu pour trouver ton parcours, tu dis qu'en fait, la rage que tu as, c'est depuis l'accident, elle s'est démultipliée avec ce qui t'est arrivé en fait.
Tout à fait. Ouais, ça c'est vrai, parce que t'es pas censé savoir. En plus, je pense que tu le sais, parce que quand t'as fait un peu tes recherches, moi je suis aujourd'hui, hein, si je suis aujourd'hui ici, je suis un petit peu, entre parenthèses, un miraculé, parce que j'ai failli y rester, hein. En quelques mots, je me suis fait percuter sur un trottoir par un bus, donc il m'a pris par l'arrière. Il a tête en premier dans un arbre. Donc, quand moi j'ai pris l'arbre, c'était fini, quoi, hein. J'ai fait du coma, sorti du coma, j'ai fait des rééducations qui étaient la rééducation. Et puis pour revenir à peu près à un niveau où je pouvais juste vivre normal, c'était long, c'était très 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 long. C'était un long parcours du combattant. Je me suis fait ouvrir la tête 13 fois, donc j'ai que des plaques et des bises et tout, et voilà. Alors, je te parle pas des fois des douleurs et des ci et des ça, mais je suis quelqu'un qui va pas trop en parler, parce que j'aime pas, je veux pas me plaindre ou quoi que ce soit. Mais c'était pas facile, c'était pas facile. Et être où j'en suis aujourd'hui, j'en suis vraiment très 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 heureux. Donc, oui, moi je reviens de très loin. Moi je reviens vraiment de très loin. Donc c'est comme on disait avant, c'est rien n'est impossible dans la vie si vraiment tu le veux. Donc voilà.
Et ce qui est donc le médecin il dit que tu pourrais pas remarcher ou que t'es un miraculé, tu pourras peut-être jamais remarcher ou quoi que ce soit. Et maintenant t'es champion de France, t'es athlète enfin international, mais parce que tu participes aux championnats du monde, des choses comme ça et tout, t'es sur la liste des sportifs de haut niveau. Enfin c'est un sacré parcours. Alors l'accident c'est 2005, on est en donc c'était il y a 17 ans quand même, hein. C'est
Et 17 ans.
une sacrée vie qui a basculé ce moment-là. À cette époque-là, juste avant, t'étais quoi? Bon, j'imagine tu courais, t'étais quoi? T'étais un bon athlète
Non, 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 j'étais pas un super athlète, j'étais un mec qui faisait un peu de tout, comme tout le monde. J'avais pas vraiment un sport où j'étais au super top, quoi, je veux dire. Je courais déjà, mais j'étais pas au niveau où j'étais maintenant. Je faisais un peu de foot, je faisais un peu d'athlé, je faisais un peu de natation et tout. Et bon, je t'avoue que j'avais toujours l'athlétisme qui était toujours un peu plus haut, quoi. L'athlétisme, il était toujours, il passait toujours au bout d'un moment, il passait toujours au premier plan. Parce que j'aimais ça, j'aimais courir, j'aimais le partage, j'aimais, donc voilà. Et c'est sans conviction que j'ai vraiment, après l'accident, rebasculer sur l'athlétisme. Donc, ouais. C'est toujours le sport que j'ai préféré quand même. Ouais.
Quand tu reprends l'athlétisme comme ça, c'est quoi? Si tu dis j'ai besoin de bouger, j'ai besoin, c'est quoi le qui te fait? Pourquoi
Ben,
tu
c'est
reprends
tout bête.
l'athlétisme?
Alors, en fait, c'est tout bête. Moi, quoi, après ces longues, longues, longues années de rééducation et de pour arriver à une vie à peu près normale. Je me suis dit, j'allais marcher un peu plus tous les jours et des trucs comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être reprendre un vélo d'appartement, juste pour faire un petit peu bouger, quoi, hein, pour, comme tout le monde, comme tous les gens normaux, quoi. Je veux dire, alors, donc, je m'achète un vélo, je faisais 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et un jour, je me dis, bah, tiens, pour une fois, essayer de refaire une sortie en courant, quoi, en fait, accompagné de mon papa, quoi, qui me suivait. Et ben j'ai commencé à refaire 1, 2 kilomètres, 3 kilomètres, 4 kilomètres. Je te promets que quand je faisais 4 kilomètres, 15 jours après, j'arrivais pendant 15 jours, j'arrivais plus à descendre des escaliers. Hein. C'est pas cardiaquement, c'est musculairement, j'avais plus l'habitude et le corps était voilà quoi. Tu sais comment que c'est, hein. Et ben le corps il s'habitue à tout. Petit à petit, je faisais 5 km par semaine, après 6, je suis passé à 10 km par semaine, 10 voire même 15 par semaine. Et moi, le déclic qui m'a donné envie de refaire une licence à la Fédération Française Handisport, c'est que moi, au club, chez moi, là où moi je suis, ils avaient, c'était en 2012, en 2013, ils avaient organisé les championnats de France. C'est eux qui avaient organisé les championnats de France au stade chez nous, Handisport.
D'accord.
Et moi, je suis allé là-bas et j'ai vraiment regardé cette compétition du début à la fin. Et quand la compétition a été terminée, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas refaire une licence handisport, quoi, tu vois? Puisque j'avais plus le droit de courir avec les valides. Donc, je me dis, tiens, je vais faire une licence handisport. Moi, je refais cette licence handisport au club chez moi à la Sarre, à Sarreguemines. Et je faisais des petites compétitions régionales, des trucs comme ça, et je me rends pour la première fois à Charletti au championnat de France, justement comme je t'ai dit avant, de 5000 mètres à Charletti. Je me dis, waouh, les championnats de France, pour moi c'est énorme, j'ai jamais vécu ça, quoi. C'est déjà rien que déjà le stade à Charletti, c'est un stade magnifique, quoi. Je me dis, waouh, je vais courir sur une piste, mais ça va être incroyable, quoi. C'était vraiment que du bonheur. Et moi, je me dis, bah tiens, je me mets à l'année de départ, je vais donner le maximum, mais on verra bien ce que ça donne. Et ce premier championnat de France-là, je fais tout de suite champion de France du 5000 mètres. Et donc sans entraînement, j'avais pas vraiment d'entraîneur la fois-là spécifique. Je faisais vraiment mon petit truc de côté, dans mon côté. Et quand tu fais après tout de suite champion de France, quand tu fais champion de France du 5000 mètres, ça t'ouvre déjà beaucoup, beaucoup de portes. Et puis, que ce soit au niveau des institutions, ils t'envoient des lettres de félicitations. Et puis, faut savoir qu'après, tout de suite, t'as des, pas comme maintenant, mais pas tout de suite au début. Mais j'avais un ou deux sponsors qui sont venus toquer à la porte et tout. Donc, et c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. C'est vraiment l'histoire, hein. C'est vraiment l'histoire, voilà. Si je serais pas peut-être pas allé voir cette fameuse compétition, peut-être que je serais pas là aujourd'hui. On sait. Mais c'est vraiment l'histoire que je te raconte là qui s'est passée pour moi, comme pour être là où j'en suis aujourd'hui.
Mais c'est dingue l'histoire, parce que bon, l'accident, tout ce qui s'est passé derrière et tout, et c'est de dire comment ça bascule en quelques secondes la vie, le rebond que tu fais et tout. Et te dire, bah tiens, il y a les compétitions. Et puis, en plus, ta cécité évolue, parce qu'au début, finalement, c'est-à-dire que de plus en plus, vers des catégories où tu vois de moins en moins, finalement.
En fait, moi, la fois où je vais voir cette compétition, où je fais champion de France, j'étais en T13. Il faut savoir que chez nous, il y a 3 catégories. Il y a T11, T12, T13 chez les déficients visuels. T13, ça veut dire que tu vois mal, mais tu n'as pas droit à un guide.
D'accord.
Tu cours seul, mais tu vois mal, mais tu n'as pas droit à un guide. T12, c'est comme tu avais dit avant, c'est la catégorie de Thibaut Rigaudeau. Tu vois plus mal encore, mais c'est toi qui choisis. Ou tu prends un guide, ou tu n'en prends pas. Et t'es 11, c'est ce que je suis maintenant, moi. Sans guide, tu ne cours pas. Ça veut dire sans Mathieu, je ne cours pas.
Ouais, tu ne peux pas courir du tout. Ouais.
Je ne peux pas courir du tout. C'est pour ça que moi, je vais toujours mettre cette valeur et toujours de mettre les gens, les guides comme Mathieu, aussi en avant, parce que en fait maintenant moi ce qui était moi un sport individuel où je courais seul est devenu un sport d'équipe, puisque c'est pas moi qui gagne tout seul. Mathieu, il gagne avec moi, donc et c'est vraiment un truc que j'arrive pas à expliquer. C'est vraiment C'est un truc hors du commun. Quand tu changes comme ça de catégorie, après tu te retrouves avec un mec où quand tu gagnes, en fait tous les deux, on est contents tous les deux. Non, franchement, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Parce que moi, il faut savoir que moi, quand j'étais en T13, je suis allé refaire ma licence. En fait, ma licence, ma classification internationale. Donc, moi, de T13, ils me font un fond d'œil. Ils me disent, ouais, les nerfs optiques, ils sont complètement morts parce que j'ai les hématomes entre les plaques et les méninges qui m'ont complètement détruit les nerfs optiques. Alors, ils me disent, je suis passé, je me souviens que j'avais vu deux médecins internationaux. C'était, je crois, une dame, une chinoise et une anglaise. Donc, eux, ils font tous les deux les fonds d'œil et après, ils se concentrent, tu sais, pour savoir s'ils ont les mêmes résultats. Et ils reviennent vers moi et ils me disent, écoutez, on vous met en T11. Et ça, c'était à 3 jours des championnats de France.
Ouais.
À 3 jours des championnats de France, de T13 où tu cours seul, tu me vois mal, mais tu cours seul, t'as pas droit à un guide. On me met pas en T12, on me met en T11, où il faut que je trouve un guide, où il faut que je cours dans le noir, où il faut que je sois attaché à un lien. Pour moi, c'était tout
changé, parce que, en plus, on met quoi? Ah ouais, on met un bandeau, on met quelque chose pour être sûr que tu vois rien et tout, les choses comme ça, non?
En fait, t'as des lunettes et t'as des patchs. T'as des genres de patchs sous les yeux. Donc voilà, vraiment, pour qu'on soit tous à la même enseigne. Mais, pour moi, c'était brutal, quoi. 3 jours avant les championnats de France. Maintenant, comment je vais faire pour trouver un guide? Bon, après, ça, c'est pareil. Je remercie la Fédé. La Fédé m'a beaucoup aidé. Elle m'a trouvé un guide. La fois-là, c'était pas Mathieu, c'était un autre. C'était Antoine Marciac, qui était aussi, qui était un super athlète. C'était un ancien athlète de haut niveau, mais lui, il était athlète de haut niveau sur, je te mens pas, 800. C'était un super coureur de 800, qui valait une 44, une 45 sur 800. Et il était costaud. Donc, lui, je l'ai connu 20 minutes avant la course.
Ouais.
En fait, notre entraînement pour les championnats de France, c'était l'échauffement.
Ouais.
donc, ça, c'est pareil. Je crois que ça devait être fin 2019 ou début 2020. Et c'était pareil. C'était aussi à Charletti. Et on se présente à la ligne de départ et on fait quand même, on refait champion de France pour la première fois alors qu'on n'était pas entraînés ensemble, rien du tout. Ah, c'était énorme. J'ai déjà passé des émotions dans ce sport-là depuis que je suis dans cette catégorie. C'est vraiment énorme. Énorme, franchement, énorme.
Mais, enfin, la question que je me pose, c'est comment la DTN, ils trouvent des guides? C'est-à-dire que c'est des personnes, des athlètes qui se disent, ça m'intéresse, ou ils vont les chercher parce que...
Non. En fait, ça se passe comme ça. La Fédération française handisport, et ce qui me semble, je ne raconte pas d'histoire, parce que vraiment, je ne connais pas non plus tous les... Mais il me semble que ça se passe comme ça. Eux, ils mettent des annonces sur le site de la Fédé.
Ouais.
Ils cherchent un étant de guide pour les non-voyants.
Ouais.
Et ceux qui ça intéresse, ils peuvent postuler.
Ouais.
Donc voilà. Et après, eux le référent des guides, lui, il voit le niveau de l'athlète et il sait à peu près le niveau du guide et il les met en contact. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi et Mathieu. Donc voilà. Il savait que moi j'avais un niveau là sur 5000 ou sur 1500 ou sur semi ou sur 10 km. Donc il savait à peu près que Mathieu, ça allait être vraiment le bonhomme qui allait pouvoir me ramener à des temps comme aujourd'hui, voire dans le futur, à des temps beaucoup plus intéressants encore. Donc il nous a mis en relation. Donc c'était vraiment grâce à la Fédé, c'est grâce à ce fameux référent des guides qui s'appelle Gauthier Simonet, qui est très très, très vraiment c'est un gars super qui fait énormément pour nous aussi pour les déficients visuels. Donc c'est vraiment c'est top.
Et pour qu'on se rende compte un peu, parce que on disait il faut qu'il parle parce que c'est ses yeux sont, il te transmet les informations. Alors sur piste, je sais pas quelle information il te transmet parce que finalement bon.
Bah sur piste ça tourne, donc il me dit dès qu'il y a un virage, dès qu'il y a un deuxième virage, ou bien il me dit dès qu'on double des adversaires parce qu'on peut pas les doubler à l'intérieur, ils sont tous à la corde. Donc on doit se mettre un peu à l'extérieur, on va doubler, il me dit on va doubler, il me donne plein les infos, mais ça passe, mais c'est moins compliqué que sur une course sur route où tu vas être comme je te disais avant, au départ des championnats de France de semi-marathon où il y a quand même 35 000 ou voire 40 000 au départ, même si nous, on a un sas spécial. Voilà, ça spécial. On va partir après les élites, entre les élites et les et ceux de derrière, ben les ceux qui veulent faire 3 heures des trucs comme ça. Voilà. Non, pas long, mais des bons coureurs
Des
déjà.
bons coureurs,
Mais
ouais.
oui, parce qu'après, je vais te dire franchement, même quand nous on part, il y en a toujours qui partent très très vite, très très fort, mais après, au bout d'un moment, ils explosent. Donc on est obligé de doubler toutes ces personnes-là. Et
Ouais.
c'est pas seulement ça. C'est qu'il y a des pavés, il y a des trottoirs, il y a des dodanes, il y a des virages. Donc Mathieu, lui, il faut qu'il me dise déjà 100 mètres avant. Hein. On peut pas arriver sur le trottoir et il me dise là, il y a un trottoir, sinon je suis déjà par terre. Hein.
Ouais.
Donc c'est vraiment. Et à chaque fois, il faut qu'on relance, nous. Hein. Donc c'est pour ça que je te dis, faire une 15 comme on a fait à Paris, c'est franchement, c'est énorme.
Ouais,
C'est
c'est ce que
énorme.
j'allais te dire parce que bon, moi j'ai fait le marathon de Paris. Les terrains changent en permanence. C'est vrai qu'il y a des trottoirs, il y a des petites bornes en plein
Ouais.
milieu du chemin. Il y a les pavés par endroits.
Oui.
Il y a des virages qui peuvent être un peu serrés par moment. Enfin, il y a tout un tas d'éléments où finalement on s'en
Tout
rend
à
pas
fait, ouais.
compte parce qu'on anticipe et puis à la limite nous on regarde la ligne verte. On se dit bon, on la suit le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que là, il y a tout un tas d'informations à transmettre pour que toi tu sois capable d'anticiper avec la vitesse à laquelle tu vas, avec les
Voilà,
Et puis
voilà.
gérer, parce qu'en plus, bon, est-ce qu'il t'aide aussi à gérer aussi la partie, enfin, comment tu gères ton effort? Parce que toi, tu dois gérer ton effort, lui doit gérer son effort. Comment vous arrivez vous avez un plan en disant on va courir à peu près à telle allure, enfin.
Oui, parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est que Mathieu, il est quand même costaud, hein.
Ouais.
Tiens, Mathieu, il est plus fort que moi, hein. Donc, c'est le mec qui va me dire, avant une course, on fait déjà un débriefing de la veille ou quoi que ce soit, sur quel temps tu veux partir.
Ouais.
Et puis lui, il a sa montre, il a tout, donc il règle. Et quand il règle sa montre, il me demande toujours comment si au bout de sur un semi, au bout du cinquième, sixième, comment que je suis, au dixième, comment que je suis. Franchement, ça c'est important aussi, hein. C'est
Ouais,
important,
bah
c'est
oui.
très important, hein. Parce que c'est un mec en plus qui est là pour te guider, mais en même temps, il est là pour te booster si jamais t'as un coup de mou. Donc c'est vraiment top quoi. Parce qu'en fait nous je te mens pas, si je te mens pas, nous on était partis l'année dernière sur le semi de Paris, on était partis pour une 16. Une 16, ce qui aurait été déjà énorme, 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 parce que j'avais fait une 23 l'année d'avant.
Ouais.
Donc là, une 16. Et on était tellement bien qu'à la fin, on fait une 15 et 17 secondes. Donc tu vois. Un peu de choses près, on aurait été en dessous de 1,15. Donc, ouais, franchement, c'était vraiment top, je pense. Et à l'arrivée, en plus, à l'arrivée, on fait une photo avec un super, super grand champion qui était en fait, qui était le partenaire du semi-marathon de Paris, qui était Stéphane Diagana, que tu
Ouais.
connais. Donc, on discute un peu avec lui, on fait des photos avec lui. Bah, c'était vraiment, ouais, c'était. La perf était là. À l'arrivée, on voit un super champion, on voit des gens, on parle avec des gens. Ouais, franchement, c'est. Et d'être en groupe comme ça, je pense que ça te booste aussi, tu vois. Tu vois, je pense que tu as aussi la niaque d'aller plus vite et puis de rien lâcher, quoi. Il y a toujours des mecs qui te disent, allez, surtout quand ils voient que tu es attaché à un guide et ils savent que tu es non-voyant. Donc, ils te motivent à fond. Hein. Les gens, les sportifs entre eux, c'est vraiment top, quoi.
Oui,
Donc,
puis
c'est
moi
ça qui est, je pense.
je me rappelle que sur la course, là, je te disais, l'athlète aveugle qui me. Enfin, moi je l'ai vu courir, quand je vois courir à la vitesse, je me dis mais, oh mais comment il fait pour courir à cette vitesse-là et tout. Et c'est vrai, j'avais vu qu'il y avait ces histoires d'annonces, de trouver des guides, etc. Mais je me dis, pour trouver un guide qui soit capable de lui parler en même temps, de dire attention, il y a ça, etc. Il faut vraiment un guide super costaud. Et en même temps, je me dis, c'est une sacrée aventure, parce que si vous allez au jeu comme ça ensemble.
Ah bah oui,
C'est
bah
un truc de dingue, enfin les championnats du monde, tout ce
ah
qu'il y
mais
a
déjà
avant.
sur, je te dis déjà cette petite anecdote pour te dire qu'on était au meeting international de Paris là au mois de juin là, où on fait une des meilleures perfs de l'année. Mathieu me dit oh punaise, c'est quoi stade super. J'ai toujours rêvé en fait de prendre le tu sais les genres d'autocollants hein, où il y a marqué le couloir et de le coller sur la cuisse, tu vois. Il était tout content, on était tout content de faire ça, tu vois. C'était vraiment que du bonheur, quoi. Donc, alors, t'imagines si on va après au monde ou bien aux Jeux paralympiques, ça va être énorme, ça va être énorme. Ça va être franchement énorme. Là, moi, j'ai vraiment hâte. Là, au mois de juillet, ça va être un truc énorme, énorme, énorme. Et je te dis, quand on a eu la confirmation, c'était semaine dernière. Mon agent, parce que moi j'ai un agent de communication aussi, parce que je suis quand même, tu sais, j'ai quand même un staff, j'ai une préparatrice mentale, j'ai un agent de communication, j'ai un préparateur physique, donc voilà. Et mon agent de communication, c'est lui qui m'envoie le truc comme quoi ça va être retransmis en intégralité sur l'équipe 21. Donc j'étais super, super content. Il me dit, putain, il me dit, oh là 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 là. la journée commence bien. Donc, ouais, ça va être top. C'est bien. C'est bien. Je suis vraiment pas content. Je te promets, Bertrand, je suis pas que content pour moi, hein. Je suis content pour tous les athlètes handisport, quoi. Tous les, voilà, quoi. Je pense qu'une bonne médiatisation au monde, là, ça va donner beaucoup de retombées pour les Jeux paralympiques. Après, France Télévisions a déjà annoncé qu'ils vont transmettre les Jeux paralympiques en intégralité comme les Jeux olympiques. Donc, ce sera pareil, ce sera top, ça va être top. Ouais, c'est ça, hein, en plus c'est chez nous, devant nos familles, devant nos sponsors, devant les gens qui nous suivent, qui nous aiment et puis qui nous supportent toute l'année. Donc ça va être énorme. C'est un truc qui sera, franchement, c'est un truc énorme. Tu participes à des Jeux olympiques ou paralympiques, c'est interplanétaire, ça t'arrive qu'une fois, hein, je te promets. Hein. Donc,
Ah oui, non, mais ça,
vraiment,
c'est.
ça vaut.
On est tellement à avoir rêvé de participer aux Jeux Olympiques et se dire. D'avoir tutoyé cette chance de dire, tiens, c'est pas loin, etc. Justement, c'est quoi? Parce que tu as commencé à parler de ton staff, mais finalement, enfin, tu es vraiment un athlète de haut niveau parce que tu as quoi comme volume d'entraînement dans une semaine?
Dans une semaine, j'ai à peu près en heure, parce que après je te mets tout, hein, avec la préparation musculaire, avec les séances de fractionné, les longs. En ce moment, je tourne à peu près entre 25 heures par semaine.
25 heures.
Ouais, à peu près 25 heures. Il y a pratiquement deux séances par jour et un jour de repos. Donc, ouais, c'est à peu près 25 heures. Ouais. À peu près 25 heures. C'est quand même pas rien. Mais bon, après, j'aime faire ça, j'aime ce que je fais, et puis voilà, ça, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, et je sais que plus je vais m'entraîner dur, et plus si j'aurai des résultats au bout, donc c'est top.
Sur les 25 heures, donc tu inclus dedans, t'as dit du renforcement musculaire, t'inclus. Mais enfin, j'ai quand même une question, c'est-à-dire que pour arriver à préparer des trucs rapides et des trucs plus longs, sur comment tu doses en fait, parce que forcément, faut que tu travailles ta vitesse, mais il faut aussi travailler la résistance sur la longue distance.
Bah, en fait, quand tu fais les deux, comme je t'ai dit, tu fais deux séances le matin, tu vas faire une séance longue le matin, allure que tu veux, allure semi, et tu feras une séance le soir, séance rapide qui va être des 400, des 500 mètres pour le 1500. Donc, le 400-500 en ce moment, je crois que j'en ai fait hier soir. Je tournais les 500 en 1,27, 1,28. Donc, ouais. Donc, ça tourne bien, ça tourne bien. Donc, c'est bien. Je suis content. Donc, en plus que j'avais fait le matin la sortie longue de 5 fois 5 000. Donc, c'est bien. 25 km hier matin. Donc, c'était bien. Ouais, hier, bonne séance. Bonne séance. Ouais, c'est des bonnes séances.
À la fin de la journée, tu dois ça doit brûler les pattes quand même, hein.
Oui. Après, c'est pour ça que nous, on regarde avec mon entraîneur pour faire la séance longue assez tôt le matin, si on fait une séance de vitesse le soir, pour laisser quand même les jambes reposer et voilà, faire une petite récupération, boire une petite sieste vraiment pour récupérer au mieux, quoi. Donc, parce qu'il faut savoir que la récupération fait partie de l'entraînement, et ça, c'est très important, très très important. Donc, quand t'as pas compris ça, tu vas te blesser à tort l'arrigo et tu vas faire voilà. Au début, moi, j'avais du mal, hein, je te promets, j'avais du mal quand mon entraîneur me mettait 2 jours en repos. J'avais du mal, hein, tu vois. T'as les pieds. Ah oui, ça commence à. Même, hein, si tu dis, oh, tu vas faire un petit, vraiment un tranquille, un petit footing. Non, non, non. Repos, c'est repos. Tu fais 2 jours, tu fais rien. Et ça c'est très important, mais c'est important. C'est important parce que le repos, le sommeil, tout ça, il faut une hygiène de vie qui est au top, parce que sinon tu vas te ramasser une blessure sur l'autre et ça va pas être bon. Ça va pas être bon. Donc voilà, ça fait vraiment partie de l'entraînement, la récupération.
Alors tiens, en récupération, tu sais quoi, t'as des rituels, t'as des trucs, tu fais généralement, tu fais attention à ton sommeil particulièrement, tu parlais un peu de la sieste aussi là, mais
Ouais, je fais souvent, j'arrive à faire des siestes l'après-midi, j'essaye, même si je dors pas, mais au moins de me reposer pendant 2 heures, 1-2 heures, et ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. J'essaye d'avoir mes heures de sommeil, qui est pas évident, Parce que je te promets, parce que moi, le problème, c'est que moi, c'est pas que je suis pas fatigué et que j'arrive pas à dormir. Moi, c'est la douleur au niveau de la tête qui me réveille souvent. Donc, des fois, je suis réveillé déjà à 3-4 heures et j'arrive plus à dormir. Donc, c'est un peu compliqué le matin pour faire une bonne séance. Mais bon, j'arrive à gérer. J'ai l'habitude. Ça fait un moment que c'est comme ça. Mais ouais, quand j'arrive vraiment, je prends tout ce qu'il y a à prendre, on va dire. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. Quand je vois maintenant, il y a un moment où je suis, après le manger, je suis assoupi et je pourrais faire une sieste ou m'endormir ou vraiment récupérer, ben je le fais. Je prends toute la récupération que je peux prendre, je la prends. Et je vais vraiment pas me dire non, il faut que tu fasses ça. Je me dis ben non. S'il y a quelque chose à faire, si j'ai des trucs à faire, parce que j'ai aussi des trucs à faire des trucs de la vie quoi en fait, de m'occuper des fois des trucs de ça, ben tu te dis non, tu le feras plus tard, pour l'instant tu te reposes et tu prends ce qu'il y a en récupération, c'est important, c'est très très important.
Donc, voilà. Ouais, c'est vraiment la démarche athlète, hein. C'est vraiment la démarche de l'athlète, c'est de dire maximiser l'entraînement, maximiser la récup.
Ah oui, c'est ça en fait, et tu pourras le voir, je pense que ben, je pense que je suis pas le premier à te le dire, hein, comme athlète, que quand tu fais un bon entraînement et tout, bien manger, c'est important, bien récupérer, le sommeil et tout ça, c'est en fait faut une hygiène de vie irréprochable. Sinon, ça va le faire, mais comme je t'ai dit avant, tu vas te choper une blessure sur l'autre et ça va te pourrir ta saison, quoi, en fait. Ça c'est pas le but, hein. C'est pas le but du tout. Surtout quand tu as un certain niveau après. Hein. Donc voilà, c'est...
Et tiens, on va parler un peu de nutrition justement. Et en fait, j'ai deux questions. J'ai celle du quotidien, c'est-à-dire, t'as des grandes règles sur quoi tu te bases en fait pour dire tiens, j'ai mon énergie pour être en pleine forme, pour faire mes entraînements, pour bien récupérer. T'as des grandes lignes de conduite sur ton alimentation.
J'ai une grande ligne de conduite, oui. Après, je privilégie quand même, on va dire, les aliments qui m'apportent quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Des aliments qui vont m'apporter, comme maintenant les féculents, ou bien les protéines qui vont nourrir mes muscles, des trucs comme ça. J'ai pas dit qu'on se fait pas plaisir de temps en temps, hein. C'est pas parce qu'on est sportif que tu peux pas manger un morceau de gâteau, hein. Ça c'est, voilà. Mais je privilégie quand même les aliments qui m'apportent vraiment beaucoup de force et vraiment tout ce qu'il faut dans le corps pour pouvoir m'entraîner et faire les heures d'entraînement que je fais au quotidien. Oui, je privilégie quand même. Donc après, je suis quand même un petit suivi où je fais souvent des prises de sang pour voir si je suis pas en manque de vitamines, en manque de fer qui est très important, en manque de ci ou en manque de ça. Donc je suis quand même assez ce processus là pour surtout en début de saison, quand tu reprends la saison, faire une prise de sang totale avant de reprendre des grosses compétitions, c'est pas anodin parce que tu verras si t'as un manque de ci, si t'as un manque de ça, parce que si t'as un manque de vitamines, t'as un manque de fer et tout, tu le ressens obligatoirement sur les performances. Arrivé à un certain stade, je crois, tu le ressentiras, hein, parce que j'étais déjà en carence de fer, je l'ai bien ressenti, parce que c'est pas que tu veux pas, mais t'as pas le jus.
Ouais.
Donc, voilà, t'as pas de jus, et en plus, le fer, c'est associé aux hémoglobines, donc ça te ramène de l'oxygène dans le sang, donc t'es un peu aussi, on va dire, restreint au niveau de l'air, au niveau de l'oxygène, donc parce qu'en fait, moi, je t'explique un peu, moi, j'ai une, dû à mon accident, j'ai également une anémie chronique, justement, en fer. Moi, il faut de toute façon que je surveille ça à peu près tous les 2-3 mois, parce qu'en fait, moi, quand j'ai eu l'accident, j'ai l'intestin grêle qui a été touché, et c'est celui qui fixe le fer. Donc, moi, même des fois, si je pourrais manger 2 steaks rouges par jour ou 3 steaks par jour, j'ai pas ma dose de fer.
D'accord.
Parce qu'en fait, il se fixe plus comme il faut. Donc, moi, il faut que j'aille voir un spécialiste qui me donne des aliments ou bien des compléments. Ouais. Voilà, des compléments en fer pour que ça m'aide à remonter au niveau du fer. Et ça m'est arrivé 2 fois ou 3 fois où j'ai, avec les traitements que j'ai des fois dans la semaine, parce que j'ai aussi les traitements où je vais voir au niveau de ma tête et tout, d'oublier d'avoir fait cette prise de sang. Et puis de me retrouver du jour au lendemain fatigué et tout, mais je le ressens tout de suite. Hein.
Ouais.
Et je me dis, oh non, j'ai pas fait la prise de sang, je suis sûr que je suis en carence de fer. Et je fais la prise de sang, je suis bien en carence de fer. Et bien, je peux te dire que quand tu es en carence de fer, tu peux avoir la volonté que tu veux, t'avances pas. T'avances pas, t'avances pas, t'as plus de jus, t'as plus de jus. Donc j'ai fait maintenant très très attention à ça, et encore plus en sachant les échanges qui vont arriver. Donc voilà.
Tu manges de tout ou tu as des aliments que tu manges moins? Enfin, on dit
Non.
que tu manges du gâteau et des trucs comme ça, mais tu manges quand même de tout ou t'as pas de trucs particuliers?
Alors, moi, je suis quelqu'un qui mange de tout, mais je suis quelqu'un qui aime quand même beaucoup plus les féculents, les légumes, des trucs comme ça. Au niveau de tout ce qui est charcuterie, saucisse, tout ça, c'est pas que je veux pas, c'est que j'aime pas. J'ai jamais été fan, pas fan du tout. Après, tout ce qui est laitage, je bois du lait, je mange du yaourt, je mange des fromages, ça oui. Mais non, sinon je mange de tout. Mais le petit bémol, c'est tout ce qui est charcuterie, des trucs comme ça, c'est pas mon kiff. C'est vraiment pas mon kiff. Ça, je vais un peu, on va dire, un peu mettre de côté. Mais non, sinon, en général, je mange de tout.
Bon, après, je vais te dire, les spécialistes en nutrition alimentaire, ils diront que la charcuterie, c'est classé dans les non indispensables. Donc, à la
Ouais.
limite, c'est même pas une privation finalement, c'est par goût.
Non, non,
Tu...
non. Mais après, non, c'est pas une privation, parce que je te dis, même si je serais pas au niveau où je ferais attention, parce que ou d'avoir tout ce qu'il faut et tout, parce que je suis sportif et je suis sportif de haut niveau et tout, c'est en fait c'est de la charcuterie. Ça m'a jamais donné envie. Je kiffe pas, donc voilà. Ça me donne pas envie. Mais autrement, en général, je mange du tout.
Ouais. Et alors, ma deuxième question sur la nutrition, c'était celle pendant les courses et pendant l'entraînement aussi. Et notamment par rapport à bah, comment tu fais sur les ravitaillements. Parce que,
Ah,
enfin.
ça c'est pareil. Les ravitaillements, c'est Mathieu.
Ouais, c'est Mathieu.
Mathieu gère tout. Les ravitaillements, le pauvre, il doit tout gérer. Il doit gérer les allures. Je me rappelle que je sais que sur semi, des fois on est en groupe avec des mecs, des valides. Ils leur demandent de prendre une bouteille d'eau pour nous. Et c'est des mecs qui sont vachement cool, quoi. Hein. Donc ils nous prennent une bouteille d'eau, des trucs comme ça. Mais c'est Mathieu qui gère. Parce que moi, je vois pas, hein. Je sais pas si les tables sont à droite de Ravito, je sais pas si c'est en gauche. Donc Mathieu gère tout. Donc c'est pas facile des fois pour lui, hein, je sais. Hein. Gérer le Ravito, gérer l'allure, gérer à ce que je tombe pas. Non, franchement, j'ai un guide en or. J'ai un guide en or, et franchement, en plus, c'est quelqu'un d'une gentillesse incroyable, et puis d'une bienveillance pas possible.
Et tu prends quoi sur les sur une alors bien sûr les distances courtes t'as pas de ravitaillement mais sur c'est à partir de quoi? Déjà sur le semi tu te ravitailles?
Ouais, sur le semi, je me ravitaille, mais pas au 5 ou 10. Moi, je me ravitaille en général, sur semi, je me ravitaille une fois. Je me ravitaille sur 10. Sur 10 km, je me ravitaille pas. Pratiquement pas.
Ça va trop vite.
Non, ouais. Et sur 5, non, pas. Sur 5, je parle même pas. Mais là où je commence vraiment à me ravitailler dès les 5, c'est sur ce marathon. Ce marathon, même si t'as pas envie, il faut le faire. Il faut bien savoir qu'il faut le faire. Parce que sinon, c'est pas dit, hein. C'est pas sûr à 100%, ça dépend du personnage et de la configuration de la course. Mais tu peux le payer au 30e ou au 35e. Mais il faut commencer au 5e déjà à se ravitailler. Que ce soit en eau, que ce soit en nourriture, en gel, tu sais, après, voilà, tu sais de quoi est fait les ravitaillements. Mais sur un marathon, il faut commencer au 5, tout. Il faut prendre tous les 5, il faut les prendre. Tous les 5, 10, 15, 20, bon, même au 40e, alors qu'il reste que 2 km. Tu crois des fois, t'as pas besoin, mais c'est les deux derniers qui sont les plus durs. Quand t'es mal, je peux te dire que ce sont les plus durs. Donc il faut les prendre. Pour vraiment se ravitailler au marathon, il faut commencer au 5e déjà. Alors que sur semi, non, pas vraiment. Un ravitaillement sur 10, ça suffit. Tu sais que c'est 21 km, tu sais, voilà, tu sais, au bout de 21 bandes, c'est fini. Après, au semi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au semi, comme au marathon, tu as le mur du 30e. Au semi, tu peux toujours avoir un mur, c'est au 13e ou au 14e, tu vois. Logiquement, c'est toujours vers là que si t'es pas bien, hein, je parle, hein, que tu auras un peu ce coup de mou et pour repartir. Ouais, faut faire attention de pas avoir une fringale ou quoi que ce soit sur semi à partir du 10e, parce que les 10 premiers kilomètres, ça passe tranquille, c'est toujours comme ça. C'est après du 10e jusqu'à la fin, Même arriver des fois, si t'es mal, au 15e ou au 16e, c'est chaud, hein, c'est compliqué. Alors que t'as fait 15, 16, il te reste plus que 4 ou 5. Mais quand t'es pas bien, c'est long, c'est très long.
Ouais, mais tu sais, j'ai parlé avec récemment des athlètes aussi qui disaient même sur un ultra de 170, genre l'UTMB, où les deux derniers kilomètres, ça paraît pas beaucoup, mais qu'ont pu être très longs aussi parce que par des histoires de manque de
Ah
ravitaillement, de
oui,
plus d'énergie, de plus rien qui passe, etc. C'est vrai que des fois ces kilomètres, ça paraît pas beaucoup, mais c'est justement ceux qui sont compliqués à passer.
c'est ouais. Non mais en plus, eux c'est encore pire, c'est énorme ce qu'ils font. Parce que eux, les ravitaux, tout ça, c'est déjà faut finir, il faut faire ce qu'ils font. Et puis les ravitaux et tout ça, c'est abusé, c'est vraiment moi, c'est chapeau, hein, franchement, moi, je tire mon chapeau pour ces athlètes-là qui font des ultra trail et tout ça. Donc franchement, c'est top, quoi, hein, c'est top ce qu'ils font. Et puis c'est une préparation, je pense, qui est millimétrée aussi, hein, pour finir un ultra trail ou quoi que ce soit, rien que pour le finir, hein, moi, je ne parle pas du temps, hein. Donc faut vraiment que tout rentre en compte, tout rentre en compte, que ce soit le ravito, que ce soit la préparation, que ce soit tout, en fait. Je pense que c'est ça.
Ouais, on en a parlé un peu de tes grandes étapes, hein, il y a l'histoire des donc il est champion du monde. Les Jeux Olympiques, en fait, elle se passe comment la qualification? T'as des minima à faire, ça marche comment?
En fait, ça se passe comme ça. Cette année, ça va se passer qu'il y a des minima à faire du 1er janvier jusqu'au 28 mai. Il y a des minima à faire sur 1500 et sur 5000 et être dans le top 12 mondial.
D'accord.
Dans le top 12 mondial. Donc là, t'es pris. C'est les critères, hein, de sélection, hein, que nous, on a eu, hein. Là, t'es pris pour les championnats du monde. Si au championnat du monde, tu es en finale et tu es dans les. Je raconte pas de bêtises. Dans le top 6 mondial, en finale, tu es qualifié directement pour les Jeux. Donc, t'as plus à te soucier si de faire des minima et t'as plus qu'à te préparer pendant un an pour les Jeux. Si tu n'arrives pas à faire ce top 6, bien sûr, il y aura bien sûr il y aura bientôt une autre critère il y aura un autre critère de sélection qui sortira après les championnats du monde, où il faudra sûrement aussi nouveau faire des minima ou être dans le top 6 mondial, ou voilà. Mais tu auras encore ta chance. Mais le bon plan, c'est, je te dis, tu arrives en finale, bah oui,
Oui.
tu fais dans le top 6 mondial, tu es qualifié pour les Jeux et tu n'as plus qu'à focaliser à ta préparation pendant un an. Donc voilà.
Donc
Et
l'objectif, il est là,
après, je te
quoi.
dis, oui, et puis après, bien sûr, l'objectif là, mais après, je veux dire, tu auras des critères qui vont sortir. Plutôt tu feras les minima et le top 10 ou 12 mondial, ou le top 6 mondial, je veux dire, parce que ça, c'est pas les montres, c'est les jeux. Et puis plutôt tu seras qualifié et plus vite tu seras tranquille, quoi, entre parenthèses, pour te préparer pour les jeux. Donc
Ouais.
l'objectif c'est ça.
Ouais, parce que après, derrière, tu pourras caler ta saison sur cet objectif-là, qui est de dire, bah, c'est les
Voilà.
jeux. T'as pas les objectifs
Ah ouais.
intermédiaires pour dire, faut que je gagne la qualification, être prêt avec des pics de forme avancés pour être prêt
Voilà,
sur les qualifications, quoi.
exactement. Exactement. Après, de toute façon, ça c'est pareil, hein, comme pour cette année, on a pas mal de meetings à l'étranger, on a des meetings chez nous en France, IPC qui vont compter pour la qualif pour les championnats du monde. Il va vraiment falloir de toute façon faire des choix. Tu peux pas tout faire. Parce que sinon, si tu es qualifié pour les mondes, il faut pas que tu arrives au mois de juillet et que tu sois cramé à Paris. Tu vois ce que je veux dire?
C'est
Donc, il
clair.
faudra vraiment faire des choix. Parce qu'on a vraiment beaucoup. Je crois il y a 6 meetings internationaux avant les championnats du monde, internationaux. Et je crois qu'il y a 3 ou 4 meetings en France qui sont aussi internationaux, qui sont aussi jouables pour la qualif pour les championnats du monde. Donc, faut vraiment faire des choix. Faut vraiment savoir quel meeting tu es susceptible de faire, si tu veux en faire deux, trois. Je pense qu'il faut pas tout faire, parce que sinon tu vas être cramé. Tu vas être cramé au bout d'un moment. Et ça, il faut vraiment parler en amont. Il faut vraiment parler avec ton entraîneur, avec ton guide, avec tout le staff, quoi.
Ouais.
C'est là que tu prendras ta décision.
J'avais une question parce que sur ton compte Instagram, j'ai vu que tu avais une cagnotte qui avait été lancée l'an dernier, hein,
Ouais.
pour aider justement à financer. Et tu te disais, bah, deux personnes qui se déplacent, les coûts sont doublés et tout. Bah, c'est vrai qu'en plus, il y a cette logique-là. Comme on avait parlé avec comment ça s'appelle, Thibaut Rigaudot, on disait que le prix du vélo était c'était encore beaucoup plus cher que sur un vélo de triathlon. Déjà qu'un vélo de triathlon, c'est cher. Oui. Mais les vélos de triathlon en paralympique, c'est encore beaucoup plus cher et c'est encore plus compliqué.
Ouais, parce que je crois que c'est, ils sont à deux sur le vélo, je crois.
C'est, ouais, plus long, tu sais. C'est un tandem, ils sont à deux. Il est tandem, plus long. Exactement. Il y a tout un tas de choses. Alors, disais, trouver un vélo, c'était en plus compliqué parce qu'il n'y en a pas tant que ça et tout. Là, c'est vrai qu'il faut se déplacer à deux. Donc, le minimum de ça, c'est-à-dire que tout est doublé, quoi.
Tout est multiplié par deux. Mm. Tout est multiplié par deux, que ce soit les déplacements, que ce soit l'hébergement, que ce soit tout. Donc ça coûte de l'argent. Il faut savoir que c'est pour ça que nous on avait mis une cagnotte avec mon agent de communication, on avait mis une cagnotte en place depuis l'année dernière, et que tout est bon à prendre. Donc même si c'est le minimum du minimum, oui, tout ça coûte une saison coûte pas mal d'argent. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Surtout si tu as des objectifs comme les nôtres, ça coûte pas mal d'argent. Et comme tu disais avant, pour moi, c'est doublé par deux, puisque moi, il y a Mathieu, quoi. Donc voilà. Après, pour Thibaut, c'est pareil. Hein. Thibaut, c'est multiplié par deux. Hein.
Ouais.
Après, c'est ce que je te disais avant. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu montes sur liste ministérielle comme sportif de haut niveau, les sponsors ils regardent sur là-dessus aussi, hein. Faut pas rêver, hein. Donc ils vont se dire, tiens, c'est un sportif de haut niveau, il est sur liste ministérielle et tout, on va le sponsoriser. Donc ça va donner un peu plus de notoriété pour trouver des gros sponsors, ça c'est sûr à 200%. Donc déjà pour ça aussi, je suis super super content d'être sur liste ministérielle, donc ça va être bien.
J'avais une dernière question sur finalement, je t'ai même pas demandé ton âge en fait,
comment?
Je t'ai même pas demandé ton âge parce que tu galopes à toute vitesse, mais les gens ils doivent se dire, mais finalement t'as quel âge?
Moi je suis 36 ans.
Hein? 36?
36 ans.
Ouais. Et est-ce que c'est possible de se projeter, tu te dis, quand tu regardes les athlètes, niveau, etc., pendant combien de temps tu peux faire carrière en fait dans ce, est-ce que c'est différent par rapport aux autres catégories, enfin, j'allais dire ce qu'on appelle valide, mais je sais pas comment on pourrait les appeler. Est-ce que finalement, dans tes catégories à toi, finalement, tu peux durer plus, tu vois, ou moins, ou comment ça, est-ce que l'âge, comment ça peut jouer? Tu le sais, ou finalement, tu sais pas encore comment ça peut se passer en vieillissant?
Bah, ça peut se passer, ouais. Tu sais, tu t'y penses même pas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en handisport, on n'a pas de catégorie d'âge. Il n'y a pas de master.
Il n'y a pas de catégorie d'âge.
Non. Non. On n'a pas de catégorie d'âge. C'est pour ça que tant que tu performes, tu continues.
D'accord.
Voilà, tout simplement.
C'était ça ma question.
Simplement,
en fait.
Je pense que. Non. Tant que tu performes, tu continues. Et c'est pour ça, il n'y a pas de catégorie d'âge. Mm. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que. Tant que je serai un des meilleurs Français, je continuerai. Donc. Il n'y a pas de souci. Mais je te dis, il n'y a pas de catégorie d'âge en handisport. Il n'y a que des. Ils ont le problème, je pense, c'est ça. Ils ont tellement déjà de travail avec toutes les catégories de handicap qu'ils ne vont pas encore inclure les catégories d'âge. Sinon, ça va être un bordel pas possible, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en handisport, il n'y a jamais de catégorie d'âge. Tu ne verras jamais. Nous, on a des fois. Dans nos séries au championnat de France, des jeunes de 20 comme des mecs de 30, des mecs de 40, des mecs de 45, de 50, il y a tout âge. Il y a tout âge dans nos séries parce que, comme je t'ai dit, il n'y a pas de catégorie large. Il y a des mecs qui tournent très bien à 50 ou à 55 encore. Donc,
ils continueront. Ouais. Ouais. Ils peuvent continuer, il n'y a pas de catégorie d'âge.
Non.
Et pour l'instant, les jeunes, ils sont derrière toi.
Ouais. La story. Ouais. Espérons que ça dure.
Bon, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que tu t'entraînes beaucoup pour qu'ils restent derrière toi, les petits jeunes. Moi, je trouve, je te souhaite une belle saison, parce que là, c'est, tu l'as dit, hein, ça arrive bientôt les compétitions, après t'as les Minzing, les championnats, etc. Je mettrai tous les liens, parce que j'ai vu la cagnotte, elle est active. S'il y a des gens qui écoutent le podcast et qui veulent t'aider, parce que j'imagine, on parlait d'argent, tu peux avoir des recherches de sponsors, tu peux avoir des recherches de visibilité en communication, etc.
Ah oui. Tout est bon à prendre, comme je te disais avant. ça coûte de l'argent, donc tu t'es vraiment. Et d'ailleurs, je remercie tous les gens qui m'aident et qui m'ont déjà aidé. J'ai tous les sponsors parce que j'en ai déjà. Hein, j'en ai quand même déjà hein, des sponsors. Après, nous, on a aussi les institutions. Tu vois.
Ouais.
On a les institutions en fait, le département de la Moselle, la région Grand Est, la ville de Sarreguemines, mon club. Donc déjà eux ils nous aident aussi. Il faut savoir qu'eux ils nous aident, ils nous donnent une subvention tous les ans quand même.
Ouais.
Donc ça c'est aussi pas, c'est aussi pas, c'est aussi pas, mais c'est pas, c'est toujours bon à prendre quoi. Et bon après, par contre, tout ce qu'on peut prendre, on le prend parce que ça, malgré ces subventions et tout, pour boucler une saison, et surtout, je te dis, comme tu disais avant, avec pour Mathieu, ça, on est à deux. Ça, pour plus d'argent, ça suffit pas. Donc, les bons sponsors et les bonnes personnes qui voudraient nous aider, ils sont les bienvenus. Je les remercie.
Eh ben écoute, le message est passé. En tout cas, on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode pour partager. Moi, je te dis bravo déjà parce que, alors franchement, le nombre de titres sur toutes ces disciplines-là. Et puis alors moi déjà courir à ta vitesse-là, j'aimerais bien arriver un jour, mais j'en suis très très loin. Mais je fais plus de podcasts que de courses en fait, tu sais en ce moment. Et pourtant, je cours tous les jours. Mais bon. Mais je te dis déjà chapeau parce que sur les performances et ça, et puis vraiment une belle réussite sur la saison qui vient, puis sur, enfin j'ai envie de dire la saison, puis la saison suivante et tout, les deux ces grosses saisons là qui sont vraiment clés,
c'est
deux
grosses années, c'est deux grosses années vraiment, comme tu dis, c'est deux grosses années clés quoi, les mondes et l'année prochaine, donc les jeux, donc ouais, on va tout faire pour faire la plus belle saison possible et vraiment pour performer au mieux avec Mathieu.
Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est le meilleur qu'on puisse vous souhaiter. Moi, j'ai hâte de revoir la télé en fait, voir courir ça, de voir les retransmissions, etc. Je mettrai les liens et puis on relaiera au fur et à mesure et tout, parce que c'est vraiment, puis c'est je trouve que c'est bien que la télé mette en avant en fait, montre en fait vos exploits, montre aussi, vous êtes des, quand tu dis 25 heures d'entraînement et tout, c'est tout ce que vous faites pour être là, les uns les autres, avec en plus les difficultés, parce que c'est vrai que l'histoire du guide, moi j'étais souvent marqué, on avait beaucoup parlé avec d'autres et tout, de dire mais déjà pour trouver un guide, pour arriver à trouver la bonne entente, pour avoir le guide qui correspond et de le garder longtemps aussi, parce que finalement c'est aussi cette entente là qui va vous permettre de durer l'un et l'autre. C'est un super exemple. Merci beaucoup en tout cas pour le temps passé avec nous, pour les conseils.
Merci à toi,
pour
merci
cette
à
vision.
Toi Bertrand, c'était top. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce moment de partage avec toi.
Et bah écoute, vraiment, moi aussi,
merci beaucoup. Merci,
je mettrai
pour l'invitation.
Tous les liens dans les notes de l'épisode, parce que j'ai vu que tu as un compte Instagram, tu dois avoir une page Facebook.
Oui, j'ai une page Facebook. Ouais. Oui.
Donc je mettrai tous les liens, il y a les liens aussi vers la cagnotte.
Tu verras ma page Facebook, j'ai une page j'ai un compte perso et j'ai une page Facebook que j'ai ouverte depuis avec mon agent de communication qui tourne très bien. Ça fait un peu plus d'un an. Alors ça fait, en janvier ça fait un an. Hein. Ça fait un an en fait, si tu vas sur Facebook, tu tapes Michel Munch athlète en e-sport et tu tombes sur ma page.
Ouais.
Et tu verras de toute façon la photo de couverture et la photo de profil avec moi et Mathieu, donc c'est ça là que, voilà.
Et si, allez, j'ai une dernière question subsidiaire, tu disais ton papa qui t'entraînait, qui te suivait, etc. Ouais. Il te suit en comment, en courant ou en vélo?
En vélo. En vélo. En vélo. Mon père est, c'est un sportif, mais pas non plus, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
En courant, c'est pratiquement impossible, quoi. Donc,
et ça aussi, c'est une sacrée relation quand même, hein, de développer cette relation ensemble. Hein.
Bah, et, tu sais, cette relation entre père et fils, moi, depuis que maintenant, je cours dans cette catégorie-là, comme mon entraîneur, il y a des moments où mon entraîneur ne peut pas être là, donc il y a mon papa. Et on a vraiment, on a lié vraiment ces liens entre père et fils, alors l'entraînement, et puis mon père c'est pareil, il me booste toujours, il me donne beaucoup 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 d'énergie, donc c'est vraiment que du bonheur quand il y a mon papa qui est avec moi. C'est vraiment top.
Voilà, c'est une belle aventure humaine qui va vous conduire tous ensemble au monde, aux Jeux Olympiques en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci Michel pour ce chouette épisode, j'ai pris un grand plaisir à discuter avec toi, je mettrai tout le lien dans les notes de l'épisode. Et puis, ben, écoutez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité, moi c'est ma surprise, tu sais. Après, je dis jamais les invités parce que ça évite que je me plante en annonçant de mauvais invités. Je garde les surprises. Tout ce que je sais, c'est qu'on va bouger. Hein. Tu sais, c'est on continue à bouger, on continue à prendre des conseils, etc. auprès d'athlètes comme toi et auprès de gens qui nous aident justement à voir aussi le sport sous ses différentes formes. Et c'était un très chouette
après,
épisode.
Je voulais juste te dire, pas que toi, hein, tous les gens qui font des genres de posts de podcasts là, pour vraiment vous dire merci parce que de nous solliciter, de nous mettre en avant et puis vraiment c'est top parce que faut pas oublier que les épisodes là ils sont vus par plein de personnes donc on est mis en avant, on est mis en valeur et ça c'est vraiment génial. C'est vraiment génial et merci franchement merci d'avoir pensé à moi pour cet épisode là.
Ouais, et c'est pour ça aussi que je dis que t'as besoin que je mette les liens avec Cagnotte et tout parce que s'il y a des gens dans les milliers de gens qui écoutent, s'il y en a un qui pourrait t'aider, qui peut t'amener quelque chose, et ben écoute, c'est tout le moindre du mal que je te souhaite parce que voilà pour que ton rêve de champion.
Ah oui, c'est un rêve.
Voilà. Pour ton rêve de champion, qu'on puisse tous te voir à la télé. Bah écoute, moi c'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, merci beaucoup.
Merci à toi Bertrand, à bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.